Ce matin, on revient dans l'Évangile de Jean. Ça va être une prière de consolation qu'on va aller voir ensemble ce matin. Donc, on revient dans notre série dans Jean et on arrive dans Jean 17. Et c'est la plus longue prière enregistrée ou écrite qu'on a de Jésus. Et Jésus prie dans cette prière-là pour toi et moi. Il prie pour tous ceux qui croyaient à l'époque et ceux qui vont croire à travers l'annonce de l'Évangile. Donc, Jésus a prié pour toi et moi, et c'est cette prière-là qu'on va aller voir ensemble. J'espère que tu es curieux d'entendre ce que Christ a prié. Et moi, je vais aller plus loin, ce qu'il prie encore aujourd'hui, parce que c'est clair que dans son ministère, Jésus-Christ est encore un intercesseur pour l'Église. Il est auprès du Père, on a un avocat auprès du Père, il intercède pour nous. Et c'est un long passage qu'on va lire ce matin, 26 versets, alors je vous demande de porter attention. Écoute dans la lecture comment Jésus prie pour lui-même. Parce qu'il commence en priant pour lui-même, pas pour nous. Ensuite de ça, il va prier pour nous, puis essaie de remarquer, moi j'ai relevé 5 prières, on pourrait dire, que Jésus adresse pour ses disciples. Alors soyez attentifs à ça, s'il vous plaît. On va aller dans un mot de prière, puis on va écouter la lecture de la parole. Seigneur Jésus, nos cœurs sont tristes, lourds. Mon cœur est lourd depuis l'annonce jeudi de ce décès dans la famille d'Éric, Seigneur. Mon cœur est en peine. Je pleure, Seigneur, avec mon frère, avec sa famille. Et Seigneur, on veut amener la famille Ricard dans ta présence, Seigneur. On veut te demander de porter attention, Seigneur, sur la souffrance d'Éric, sur la souffrance de sa famille, sur le ministère que tu l'appelles à exercer auprès de tous ceux et celles dans sa famille qui ne te connaissent pas, Seigneur. On te prie d'être avec Doxa, qui est en implantation et qui va avoir... pour pasteur, un homme qui est en train de traverser un deuil, Seigneur. Seigneur, on veut entendre ta prière pour nous. On veut, Seigneur, que tu viennes fortifier notre foi. Nous te demandons de venir nous consoler, de venir nous parler, Seigneur, à travers cette prière que tu as faite pour tes disciples de l'époque, mais pour tous ceux qui croiraient ensuite. Je prie, Seigneur, de venir saisir notre âme, qu'on parte d'ici ce matin, rassuré, fortifié, sachant que tu veilles sur nous. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Bonjour. Alors, cette belle prière est dans Jean 17, les versets 1 à 26, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Jean 17, les versets 1 à 26. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus du monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux.
Merci, ma chérie. C'est correct, Michel? Celle-là, c'est ma chérie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'imagine que oui. On a tous eu une espèce de fantasme quand on était jeune qu'un jour on pourrait trouver la lampe d'Aladin. Avez-vous déjà rêvé à ça quand vous étiez jeune? T'sais, vous trouvez la lampe d'Aladin, puis vous pouvez faire trois vœux, puis c'est comme le fantasme ultime, t'sais, parce qu'il est à ta disposition, tu demandes n'importe quoi. Puis je disais, moi, j'étais un fin finot, je m'étais dit, mon premier vœu, ça va être d'avoir le droit de faire des vœux à l'infini. T'sais, comme ça, tu es correct. T'sais. Vous n'avez pas rêvé de ça? Il y a juste moi qui ai de même. N'importe quoi. Je ne crois pas. C'est pas vraiment ça, la prière, n'est-ce pas? La prière, c'est une relation. C'est une relation avec Dieu. C'est pas un génie, un djinn qui est disponible pour faire tes quatre volontés. Non, c'est une relation, la prière. Est-ce qu'il y a une personne dans l'histoire de l'humanité à qui Dieu dit toujours oui lorsqu'il prie? C'est Jésus. C'est Jésus. Dieu dit toujours oui. Bon, vous allez me dire, dans le jardin de Gethsémani, il a dit, « Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais c'est quoi sa requête? Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Pas la mienne. Le Père répond toujours positivement à toutes les requêtes de Jésus-Christ. Bien, Jésus a prié pour toi et moi. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que Christ a demandé pour toi et moi, sachant que le Père répond toujours oui? Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus a prié et prie pour toi et moi, pour que le Père garde notre foi, notre unité et notre joie, et pour que d'autres aient la joie de croire. Premièrement, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ est la nôtre. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. C'est une prière publique. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » C'est en connaissant Jésus-Christ que tu connais Dieu. Regardez le verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu dans l'Évangile de Jean, connaître Dieu, ça revient à quelque chose d'assez simple. Hein? C'est comprendre que Dieu a aimé le monde, ne l'a pas abandonné, puis que Dieu a envoyé son Fils, donc que Jésus de Nazareth n'est pas simplement un homme, mais a été envoyé par Dieu, c'est comprendre que ce Jésus de Nazareth-là n'est pas non plus simplement un homme envoyé par Dieu, mais qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu, donc que Dieu a fait l'ultime sacrifice en donnant son Fils, c'est comprendre que le Fils lui-même est venu mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Donc, on connaît Dieu lorsqu'on connaît l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, c'est ça connaître Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est assez simple dans l'Évangile de Jean. Quand tu sais et que tu crois que Dieu n'a pas abandonné l'humanité, qu'il a donné son Fils, il l'a envoyé dans le monde pour qu'il meure sur la croix, que ce Fils-là s'est donné volontairement, qu'il meure sur la croix pour nos péchés, afin que nous soyons pardonnés et qu'ainsi on puisse être réconciliés avec Dieu. Quand tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'un jour, très bientôt, nous serons réunis avec lui pour l'éternité, tu connais Dieu. Tu connais Dieu. C'est suffisant dans l'Évangile de Jean pour connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. C'est même suffisant pour dire « j'ai la vie éternelle ». Quand Jésus dit au verset 6 « j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde », c'est juste ça qu'il est en train de dire. Posez-vous la question. Qu'est-ce que les disciples de Jésus ont appris tellement sur Dieu? Jésus dit, « Je leur ai fait connaître ton nom. Je t'ai révélé à eux. » Qu'est-ce que les disciples de Jean ont appris sur le Dieu de la Bible tellement différent de ce que les Juifs de l'époque connaissaient? Comprenez, Jésus n'a pas donné un doctorat en théologie à ses disciples. En fait, lorsqu'il va être arrêté, puis il va être crucifié, ils ne comprendront même plus rien. Ça va prendre sa résurrection, puis l'arrivée de l'Esprit pour qu'ils puissent comprendre. Puis pourtant, Jésus dit au Père, « Je t'ai fait connaître à eux. » Jésus n'a pas donné un doctorat en théologie à ses disciples. Il a révélé l'amour du Père, et si tu comprends l'amour du Père, tu connais Dieu. C'est assez simple. Ce n'est pas grand-chose dans un sens. Mais quand tu comprends qui est Jésus-Christ, qu'il est venu faire dans le monde, c'est toute ta connaissance de Dieu qui est révolutionnée. Comprendre la bonne nouvelle, l'Évangile, et y croire de tout ton cœur, ça vient révolutionner ta compréhension du monde, du sens de la vie, de notre relation avec Dieu. Tu quittes la religiosité, ta compréhension de la religion change. Nos relations avec les êtres humains autour de nous changent parce qu'on réalise qu'on est pécheur, sauvé par grâce. Tu regardes les gens autour de toi sous un angle différent. Tu réalises qu'ils ont besoin de la grâce. Tu les regardes avec grâce. Ça révolutionne ta manière de définir ton identité. Tu es un gracié, ta sécurité est dans l'œuvre de Christ. Ça révolutionne tout dans ta vie. Dans un sens, toute ta vision de Dieu, du monde, de toi-même, ta philosophie de vie, ta théologie est révolutionnée par la révélation d'une seule chose. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Soit l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen? C'est simplement ça qu'ils ont compris. Ils ne comprenaient même pas entièrement ça. Je vais plus loin que ce qu'ils pouvaient comprendre ici. Quand tu as saisi que Jésus-Christ, ce qu'il est, ce qu'il a fait pour toi, c'est beaucoup plus qu'un doctorat en théologie que tu reçois. C'est une révolution complète de ta pensée, de ton être. Et si vraiment tu crois ça ce matin, si tu le comprends et tu le crois, si ton cœur vibre à l'histoire de l'Évangile, tantôt on va prendre le repas du Seigneur, quand tu vas prendre le repas du Seigneur avec nous, si ton cœur se remplit de reconnaissance, la gloire de Dieu est en toi. La gloire de Dieu est en toi. Quand tu vas te regarder demain matin dans le miroir, puis tu vas dire, « Ouais, pas glorieux. » Tu vas regarder ta journée, tes performances, tout ça, tu vas dire, « C'est pas glorieux. » Mensonge. C'est un mensonge. Si tu as saisi l'Évangile et que tu y crois, que ton cœur vibre, que la mélodie de l'Évangile touche ton cœur, te remplit de reconnaissance. La gloire de Dieu est en toi. Est-ce que tu entends ça? La gloire de Dieu est en toi. Hey, les disciples, là, ils n'étaient pas terribles, ces gars-là. Sérieusement, là, Jésus a travaillé fort pour faire quelque chose avec ces gars-là, puis c'est assez ordinaire. Première épreuve, ils vont tous se pousser. Comprenez? Et pourtant, Jésus dit, « Ma gloire est en eux, parce que je leur ai fait connaître ta gloire. je leur ai fait connaître que tu m'as envoyé. » C'est ce qui fait qu'au jour de ta conversion, au jour où tu crois en Jésus-Christ, simplement, avec une grande simplicité, même si tu ne comprends pas tout, les disciples ne comprenaient pas encore la moitié de l'Évangile rendu là. Puis Jésus dit, « Je leur ai fait connaître ma gloire. Ma gloire est en eux, parce qu'ils te connaissent maintenant. » Au jour de ta conversion, on ne t'a pas remis un diplôme en théologie, tu n'as pas commencé à étudier les épîtres de Paul, tu n'as pas commencé à comprendre toutes les implications du Nouveau Testament sur l'Ancien Testament, puis tout le sens de la symbolique des sacrifices dans l'Ancien Testament. Tu ne comprends rien de ça probablement au jour de ta conversion. Pourtant, la gloire de Dieu est en toi. Parce que la gloire de Dieu se trouve dans la révélation de son amour en Jésus-Christ. Et quand tu saisis ça et que ça vient remplir ton âme, tu es habité de la connaissance de Dieu. C'est vraiment majestueux. Et donc, c'est probablement la question la plus importante que tu peux te poser ce matin. Tu es ici ce matin à quelque part, soit parce qu'on t'a traîné, attaché aux pieds, tes parents t'ont dragué ici, t'ont obligé, ils ont dit « tu ne mangeras pas cette semaine, c'est fini, tu n'as plus aucun loisir, il faut que tu viennes à l'église. » J'espère que non, j'espère qu'il n'y a pas de parents qui font ça, mais peut-être que tu es venu, tu sais, un peu, bon, OK, je suis né dans cette famille-là, tu sais. Ou peut-être que tu es venu parce qu'un ami t'a invité et t'a dit, bon, je vais aller voir si je peux le faire sortir de cette secte-là, là. Je vais aller voir c'est quoi cette histoire-là. Peut-être que tu es curieux. Peut-être que tu viens à l'église depuis un bout de temps, tu cherches, tu te poses des questions. J'aime dire, t'entends à quelque part l'appel de l'Esprit. Il y a quelque chose qui commence. Tu as l'impression que tu es en train de rentrer dans une autre dimension que tu ne voulais peut-être pas explorer. La question la plus importante que tu peux te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu comprends ce que Christ est venu faire sur la terre? Qui est Jésus-Christ? Est-ce que tu crois? Parce que recevoir, connaître Dieu, c'est croire. Pas simplement comprendre, mais croire de toute ton âme, de tout ton être. C'est la question la plus importante que tu peux te poser ce matin. Alors, Jésus commence avec cette prière où il demande au Père de l'élever dans la gloire qu'il avait auprès du Père avant de venir dans le monde. Avant la fondation du monde, le Christ est dans la présence du Père, règne sur toute chose, il est glorieux et majestueux. Et là, Jésus dit, « Bien, ma mission est accomplie dans quelques heures, on va me crucifier, je vais ressusciter. Fais-moi remonter auprès de toi. Redonne-moi la gloire que j'avais avant de venir servir dans le monde. » Mais Jésus veut s'assurer que ses disciples ne sont pas abandonnés. Jésus veut s'assurer que toi et moi, on n'est pas abandonnés. Puis qu'il y a quelqu'un qui assure notre sécurité. Et donc, il va prier le Père pour nous. Puis moi, je vois 5 prières, 5 requêtes, on pourrait le découper autrement, que Jésus fait pour nous. Jésus va prier pour que Dieu le Père, alors que lui est parti, garde ta foi. Qu'il garde notre unité, qu'il garde ta joie, qu'il amène d'autres personnes à entrer dans cette joie-là de croire et que bientôt, très bientôt, nous soyons tous réunis ensemble dans sa gloire. Ta foi, notre unité, ta joie, que d'autres puissent croire et que très bientôt, on puisse être réunis avec lui dans sa gloire. Il dit au verset 9, il dit, « C'est pour eux que je prie en parlant de ses disciples. » Puis on voit un peu plus loin en priant pour tous ses futurs disciples, puis il dit, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » C'est un peu troublant, puis c'est en même temps extraordinairement beau de savoir que Jésus a prié à ce moment-là, pas pour le monde, mais pour ceux que le Père lui a donnés, ceux qui ont connu Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu. Quel beau chant on a chanté ensemble. « Je suis enfant de Dieu. » C'est pour toi et moi que Jésus a prié, pas pour le monde. Jésus a prié pour que le Père garde notre foi, notre unité, notre joie. Maintenant, la question qui tue, c'est est-ce que ça t'arrive de croire que Jésus est moins puissant que le génie d'Aladin? Puis que finalement, peut-être que les prières de Jésus ne sont pas exaucées. Dans ton expérience de l'Église, dans ton expérience de la foi, dans ton expérience de la joie, dans ton expérience où tu pries pour des gens autour de toi pour qu'ils aient aussi la joie de croire, est-ce qu'il t'arrive de douter que le Père répond toujours oui aux prières de Jésus? Ça, c'est entre toi et Dieu. On prend le repas du Seigneur, c'est l'occasion de venir faire à nouveau un acte de foi où je dis, Seigneur, je te crois. Je ne vois pas tout, je ne comprends pas tout. Je suis peut-être dans le jardin de Gethsémané. Je suis peut-être tenté de dire, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, cette épreuve que je traverse, qui me prive de joie. Mais Seigneur, je crois en toi, je te fais confiance, je me tourne vers toi. Père, garde leur foi. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Une des grandes tensions que les chrétiens vivent depuis 2000 ans, c'est est-ce qu'on se pousse ou on reste? Tu sais, les monastères, c'est un petit peu ça l'idée, hein? On se pousse. On va aller ensemble, on va vivre ensemble. Ce n'est pas que les moines dans les monastères n'avaient aucune relation avec le monde, ce n'est pas ça. Ils servaient beaucoup la communauté autour d'eux. Mais il y avait ce refuge-là. Et notre compréhension de vivre dans le monde, c'est que notre refuge, c'est ici maintenant. C'est le dimanche matin. Ça, c'est le moment où on est un peu entre nous, puis on dit, on s'en va adorer. Parce qu'on ne peut pas quitter le monde, il faut qu'on reste dans le monde. Puis on vient remplir notre âme de louanges, d'adoration, de foi. On vient se nourrir ensemble. On vient s'encourager les uns les autres. C'est pour ça qu'on cherche à retrouver le rythme, à ramener les gens ici. C'est une vie communautaire, mais c'est une vie qui est vécue dans le monde, la vie chrétienne. On n'est pas séparé du monde, on vit dans le monde comme Jésus avait été envoyé dans le monde. Il nous envoie maintenant dans le monde. Il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il dit, je ne te prie pas, au verset 15, de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ceux que le Père donne. Un virus. Petite toux sèche. Regardez le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Comprendre le fait que Dieu le Père nous garde dans notre foi. Il y a plein de personnes qui se disent, est-ce que je vais persévérer? Est-ce que je vais être là? Mais dans le fond, la vraie question, c'est est-ce que le Père t'a donné au Fils? La question s'arrête là. Si le Père t'a donné au Fils, le Fils ne va pas t'échapper. Il ne va pas te perdre. Dans notre confession de foi, une confession de foi, c'est comme un credo. Hein? Quand vous voulez savoir, l'Église, j'ai commencé à aller à une Église, c'est quoi qui croit? Tu vas sur notre site web, tu vas voir ce que nous croyons. C'est notre confession de foi. Dans notre confession de foi, sur cette idée-là du salut, comment on fait pour croire en Jésus et être sauvé, on dit ceci. Nous croyons que le salut vient de la grâce de Dieu, que par le décret du Père, Christ a souffert volontairement une mort sanglante, expiatoire et propitiatoire, ça sera le sujet d'un autre sermon peut-être, à notre place et que la justification, un autre sermon, est par la foi seule dans le tout suffisant sacrifice et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et que tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu seront divinement gardés et finalement rendus parfaits à l'image du Seigneur, seront divinement gardés. C'est de ça qu'il est question ici. Nous croyons que Dieu répond toujours oui à son Fils, et le Fils a fait cette prière, « Père, garde-les. Tu me les as donnés, je ne suis plus dans le monde, garde-les. » Et comment il le fait? Il le fait en nous donnant son Esprit Saint. Son Esprit Saint, lorsque tu crois dans l'Évangile, quand je dis que la gloire de Dieu vient en toi, là, c'est l'Esprit qui est venu te révéler l'Évangile. L'Esprit vient habiter en toi. Si tu crois dans l'Évangile, si la mélodie de l'Évangile fait vibrer ton cœur, l'Esprit Saint habite en toi et c'est lui qui va te garder. C'est pour ça que nous croyons, des fois on va appeler ça la persévérance finale des saints. Et il arrive qu'on voit des gens qui ont fait une belle profession de foi et qui quittent l'Église. Bien, ils vont revenir s'ils sont au Seigneur. Le Seigneur va venir les chercher s'ils sont à lui, rapidement peut-être, ou tout simplement, comme Jean dit dans sa lettre, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Et Jésus était très clair. Il y a beaucoup de gens qui vont faire profession de foi, même très sincèrement, je crois. Mais quand les épreuves viennent, ce qui se révèle, c'est que l'Esprit n'est pas en eux pour les garder. C'est comme quelque chose de beau. Un coup de foudre avec ce beau message de l'Évangile sans ce miracle de recevoir l'Esprit Saint. Et donc, nous croyons que Dieu répond aux prières de Jésus et qu'il va te garder. Et si tu doutes de ça, retourne à l'Évangile. Si tu dis, je ne sais pas si je vais persévérer, je vais peut-être abandonner, comment est-ce que tu fais pour rassurer ton cœur? Retourne à l'Évangile, ce que Jésus fait sur la croix. Tantôt, on va prendre le repas du Seigneur. Sois à l'écoute de l'Évangile, puis regarde ce que ça fait dans ton cœur, dans ton âme. Si tu dis, ça, c'est la vérité, tu appartiens à Christ. Fais confiance à Jésus. Le Père dit toujours oui à ses requêtes. Tu vas être préservé jusqu'à la fin. Maintenant, regardez comment Dieu nous garde dans la foi. Dieu nous garde dans la foi en nous transformant. Il nous consacre à lui-même en nous faisant grandir dans la vérité. J'ai dit tantôt, tu es habité de la gloire de Dieu dès que tu crois dans l'Évangile. Mais ça ne s'arrête pas là, cette histoire-là. Jésus dit qu'il va nous faire grandir. Regarde le verset 17, il dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Être sanctifié, c'est être mis à part, et ça veut dire aussi être transformé de plus en plus à l'image de Christ. Lorsqu'on dit ici que Dieu est en train de former Christ en nous, il est en train de former en nous le caractère de Christ. Et comment est-ce que ça se produit, ça? Bien, plus les années avancent, plus la parole de vérité, la parole de Dieu, vient me transformer à l'image de Christ. C'est très inégal comme croissance. Des fois, j'ai l'impression que je fais deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire cette œuvre-là. Mais il est en train de me transformer par sa vérité, et sa vérité, c'est la parole. Et c'est pour ça qu'à l'Église de l'Espoir, on s'applique à exposer les Écritures. On dit ici qu'on prêche la parole par exposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on s'applique à ouvrir les Écritures, à aller dans le texte avec vous pour que vous puissiez voir dans le texte ce que Dieu est en train de dire. Ce n'est pas vraiment intéressant, et si ça l'était, ça ne serait pas pertinent que je vous raconte l'histoire de ma vie à chaque semaine ou que je vous donne un pep talk de la dernière tendance que j'ai trouvée sur le web pour que vous ayez de la joie et que vous soyez motivés pour la semaine. Ça ne nous intéresse pas. Il n'y a pas de fondement divin dans ça. Ça peut être bien le fun, ça peut être motivant. « Hey, je suis tellement stimulé, là, je suis excité au bout. » Ouais, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'exposer la parole pour que l'Esprit-Saint vienne nous sanctifier, qu'il vienne nous transformer de plus en plus à l'image de Christ. Donc, comment est-ce que le Père nous garde? C'est en nous transformant. Comment il le fait? Il le fait à travers la parole. C'est la parole qui est la vérité. On ouvre la parole ici. Peut-être que certains dimanches, vous dites, « Aïe, aïe, ce matin, ils ont lu 26 versets. C'était long. Au troisième, je t'ai décroché. » Je comprends. C'est peut-être pas comme... hip, c'est peut-être pas dynamique, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. J'ai déjà entendu parler de quelqu'un qui a saisi l'Évangile à la lecture du psaume 119. Il y a un pasteur qui a fait ça ici, il a juste lu le psaume 119. C'est la parole de Dieu. Et donc, lorsqu'on vous expose la parole de Dieu, si vous dites, écoute, j'ai pas vu le lien avec le texte, j'ai l'impression qu'Yannick a pris un verset, puis il est parti. Là, il nous a partagé ce qu'il avait sur son cœur, mais il n'a pas exposé le texte. Venez me voir. Si je commence à faire ça, venez me voir. On est là pour exposer les Écritures. Je n'ai aucune autorité en moi-même. C'est la parole qui est l'autorité. Et c'est dans la mesure où on expose fidèlement les Écritures qu'il y a une autorité qui est apportée. Le Père nous garde en nous faisant grandir dans la vérité, et c'est ainsi qu'il garde l'unité dans l'Église. Jésus dit, « Garde-les unis, moi en eux et toi en moi, au verset 23, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés et que tu m'as aimé. » Dans le fond, tout ce que les disciples ont pour être unis, c'est l'Évangile. C'est à peu près juste ça qu'ils ont de plus que le reste des Juifs. Et c'est suffisant pour qu'ils soient gardés unis. Puis lorsqu'il y a de la désunion dans une église, lorsqu'il y a des tensions, quand on commence à se picosser les uns les autres sur toutes sortes de trucs, souvent, c'est qu'on a perdu le centre qui est l'Évangile. Et c'est pour ça qu'à l'Espoir, on passe notre temps à répéter qu'on veut être une église centrée sur l'Évangile. Vous savez qu'il y a plein d'églises qui se sont divisées pendant la crise sanitaire? Vous savez ça? Moi, je parle avec des pasteurs. Ou des pasteurs, une partie des anciens ont quitté l'église en crise. L'église s'est divisée. Mais il y a toutes sortes d'opinions ici sur est-ce que le gouvernement a bien géré, est-ce que si tu peux peut-être te faire vacciner, non, moi je vais attendre. Il y a toutes sortes d'opinions sur ça dans l'église ici. Et par la grâce de Dieu, à cause de l'Évangile, on n'a pas vécu ces divisions-là dans l'église. Il y a un respect, il y a une conversation, et si on n'est pas d'accord, on revient à l'Évangile. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est merveilleux. Si on garde l'Évangile au centre, on va demeurer une Église unie en Jésus-Christ. À un moment, mon cœur était troublé pendant toute cette aventure-là. En fait, pour être franc avec vous, mon cœur a été longtemps très, 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 très troublé pendant la crise sanitaire. Puis un jour, un grand ami à moi, pour ne pas le nommer Jean-Paul Gagné, m'a dit, « Yannick, j'ai l'impression que l'Évangile n'est plus au centre de tes pensées, de ton cœur. » C'est ça que j'avais besoin d'entendre. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Gardons l'Évangile au centre, les amis. Gardons l'Évangile au centre. Troisième prière, Père, garde leur joie. Garde leur joie. Garde leur joie. Et si tu as perdu la joie de ton salut, reviens à l'Évangile. Reviens à l'Évangile. Notre joie, c'est de savoir que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant, que notre paix est en lui, qu'il intercède pour nous et que bientôt, très bientôt, on va être réunis avec lui. Et si tu as perdu ta joie, c'est probablement que tu as perdu le centre, l'Évangile. J'avais perdu ma joie. Jean-Paul m'a dit, Yannick, ramène l'Évangile au centre, ta joie va revenir. C'est une parole de Dieu pour moi. Père, garde leur joie. Père, que d'autres aient la joie de croire. C'est vraiment extraordinaire parce que dans cette prière-là, Jésus prie pour tous ceux qui vont croire à travers ceux qui vont annoncer quelque chose de simple, mais de glorieux, l'Évangile. Puis de ceux qui vont annoncer quelque chose de simple, mais de glorieux, l'Évangile. Puis d'annoncer quelque chose de simple, mais de glorieux, l'Évangile. Christ a prié pour chacun d'entre nous. Voyez-vous, pour nous, devenir chrétien, c'est avoir la joie de croire en Jésus. Et notre désir, c'est que tout le monde à Longueuil, notre famille, les gens autour de nous, entrent dans la joie de croire en Jésus-Christ. Puis Jésus a prié pour que l'Église soit gardée fidèle pour annoncer l'Évangile. C'est simple, les disciples n'avaient pas un doctorat en théologie. Si tu es chrétien, tu as tout ce qu'il faut pour inviter quelqu'un à entrer dans la joie de l'Évangile. Et Jésus a prié pour nous alors qu'il nous envoyait dans le monde. Il n'y a pas de plus grande, de plus belle mission que toi et moi on peut accomplir que d'annoncer Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus grand que tu peux faire sur la terre, ni toi ni moi. Inviter des gens à entrer dans la joie de l'Évangile. Puis enfin, dernière prière, il dit, « Père, réunis-nous ensemble pour l'éternité. » Avec les années qui passent, avec les épreuves de la vie, plus souvent, de plus en plus souvent, ma prière, c'est, « Seigneur, j'ai hâte d'être réuni avec toi. J'ai hâte d'être dans ta gloire. » Au verset 24, il dit, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Le Père dit toujours oui aux prières de Jésus. Et je sais qu'il va me garder jusqu'à la fin pour que je sois réuni avec lui. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. On va se préparer à prendre ensemble le repas du Seigneur. Si tu as saisi l'Évangile, tu es habité de la gloire de Dieu. Tu n'as pas de doctorat en théologie, tu n'as pas lu 26 bouquins sur le christianisme, tu n'as pas fait de cours encore en théologie. Tu ne saisis pas tout, Tu ne te retrouves même pas dans la Bible, mais tu as compris ce que Dieu a fait en envoyant son Fils. Tu es habité de la gloire de Dieu. La gloire du Père, la gloire du Fils habite en toi. Et Jésus-Christ s'est assuré que notre foi serait préservée parce qu'il a prié son Père au moment où il savait qu'il allait partir. Et il a fait ses cinq prières. Il a dit, « Père, garde leur foi. Père, garde-les unis. » Dans l'Évangile. « Père, garde leur joie. Qu'ils aient la joie de savoir que j'ai vaincu la mort, que j'ai vaincu le monde, que j'ai vaincu le péché, que je suis en eux et que je leur prépare une place au ciel. » Il a prié pour ceux qui croiraient à travers le témoignage de ceux qui ont cru. Il a prié pour que d'autres entrent dans cette joie-là. Enfin, il a prié pour que bientôt, très bientôt, on soit réunis avec lui dans la gloire. Ma prière ce matin, c'est que tu fasses rien d'autre que de te reposer, de t'appuyer sur cette assurance que Christ intercède pour toi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'escalade. Quand j'étais jeune, mon père faisait beaucoup d'escalade, escalade de glace, toutes sortes de choses comme ça. Il montait des parois. Fait que quand j'étais petit, je me disais un jour, je vais faire ça, je vais essayer de l'escalade. J'ai eu le privilège d'en faire à quelques reprises, puis même vivre des mésaventures un peu dangereuses. Mais quand tu vas faire de l'escalade, il y a un principe de base. Il y a quelqu'un qui assure. Okay? Donc, c'est relativement simple. Si vous n'avez déjà fait même à l'intérieur, vous connaissez le concept. C'est que pendant que je suis en train de grimper, bien, j'ai un câble, puis ce câble-là va passer dans une boucle quelconque qui est fixée. Et puis, il y a quelqu'un qui est plus bas en général, puis qui est en train d'assurer. Donc, c'est lui ton garde-fou. C'est lui qui est en train de te tenir. Si cette personne-là n'est pas là, c'est absolument dangereux. Mais au fur et à mesure que tu es en train de monter, il va reprendre le lousse de la corde. Si jamais tu perds main, en fait, tu n'es pas vraiment en danger parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'assurer ta sécurité. Quand Christ est parti auprès du Père, il s'est assuré que le Père allait assurer ta sécurité. Quelles que soient les épreuves que tu es en train de traverser, quels que soient les moments que tu es en train de vivre, si la gloire de Dieu, l'Évangile, habite en toi, le Père assure ta sécurité. Tu peux continuer à grimper, tu peux continuer à avancer. Ça se peut que tu perdes pied, que tu échappes ta prise. Tu ne tomberas pas parce qu'il y a quelqu'un de tout-puissant qui est en train de veiller sur toi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on prépare nos cœurs à prendre ce repas avec toi. Le repas du Seigneur avec toi, Seigneur, c'est glorieux, c'est majestueux. Seigneur, je veux te demander de faire entrer ces vérités dans notre âme afin que vraiment on ait la joie de se reposer dans l'Évangile. Je te prie, Père, pour ceux ici ce matin qui ne connaissent pas vraiment l'Évangile, peut-être qu'ils pensaient l'avoir saisi, mais jamais ils ont réalisé cette grâce. On peut se reposer en toi, Seigneur, parce que toi, tu assures que nous ne perdrons pas la foi, que nous ne perdrons pas l'unité, que nous ne perdrons pas la joie, que d'autres viendront à croire et que bientôt, très bientôt, nous serons réunis avec toi. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin, on veut te célébrer en prenant ce repas, on veut te célébrer par nos louanges, Seigneur. Viens nous bénir ensemble alors que notre pasteur Basile nous conduit dans ce beau mémorial. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.